manto e o drame de vida e segurança está se andando.
Il a la nature. Et non, Katsé, il n'a pas d'extrémité. Veno Baal Tachit, il n'a pas d'achèvement. Vezeum dat Yaakov, et c'est cela la modalité d'être de Jacob, ce Nikra Yeshurun, qui est appelé Yeshurun, et Yachar, qui l'a employé Yeshurun. Je veux dire très brièvement, ces trois termes qui définissent le peuple d'Israël. C'est Jacob, Yeshurun, Israël. Jacob, c'est au début de son histoire, ce peuple s'appelle Jacob, il y a un effort de redressement. Yaakov, ça vient de la racine, Yaakov, tortueux, Aké. Vous connaissez cette racine, tiens. Le verset d'Isaïe dit, Vehaya et Yaakov le Michor. Ce qui est tortueux deviendra rectitude. Vehaya et Yaakov le Michor. Vous voyez, nous passons de Jacob à Yeshurun. Et cet effort de redressement s'appelle Israël. Yachar Elo. C'est des lettres du nom Israël. Super. Comme nous avons appris souvent, le nom de Jacob dans l'exil, le nom d'Israël dans l'exil, c'est Jacob. Le nom du redressement, c'est Israël, et le nom de la transfiguration, c'est Yeshua. Il y a un Baal HaTorim cite un des Midrashim qui indique que le mot de Yeshurun peut se lire Yesh Shishim Ribo Meshamot. Vous voyez les initiales? Yesh Yud Shishim Shin Ribo Resh Meshamot Nun. Ça veut dire Yeshurun. Ça veut dire il y a 600 000 âmes. Yesh Shishim Ribo Meshamot. Ça veut dire Yeshurun. C'est-à-dire Israël au niveau de son âme s'appelle Yeshurun. Israël au niveau de son corps s'appelle Yaakov. On peut dire ça. On peut dire ça. Et lui, Netzach Israël, Yachar, Yeshurun, n'a pas de extrémité, interruption. Je veux dire, Gmit Amze Amou, et ça se propos qu'ils ont dit dans Taranit, page 5, V, Yaakov Avinu Lomet, Jacob notre père n'est pas mort. Il n'a pas, encore une fois, de perspective d'interruption en tant que Jacob. Comme nous l'avons expliqué là-bas. Veyesh le Israël midat Yaakov. Or Israël possède cette dimension de Jacob. Comme a dit le verset dans Deutéronome chapitre 33, Bahi Vishurun Meler, et il fut roi en Yeshurun. D'après le Pshat, il s'agit de Moïse, d'après le Midrash, il s'agit de Dieu lui-même. Bahi Vishurun Meler Bitase Prashe Am. Lorsque s'est fait la réunion des chefs du peuple, Yahad, Shifté Israël, ensemble les tribus d'Israël, Haré Kinikreou Yeshurun. On comprend donc que, de ce verset, que Israël est appelé Yeshurun. Et Kvar Be'arnou, Zeb, Bimkomo, Barichut. Nous avons expliqué cela en son endroit abondamment. Umpi Neze Amarakatou. Et c'est pourquoi le verset dit, Ve'aya Bechol Haaretz Pishnaim Ikaretou. Il arrivera que dans sur toute la terre, la bouche des deux sera retranchée. Ce sont les empires qui s'opposent, qui s'opposeront en ce temps-là, et des quatre empires, les deux qui s'opposeront en ce temps-là, c'est la Perse et l'Europe. Et c'est assez extraordinaire de voir, encore une fois, à quel point ça se passe dans la réalité historique. Bien entendu, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut oublier cela après qu'on l'a compris. Enfin, au moins, on comprend que l'histoire a un sens qui, même si elle nous échappe, ce sens nous échappe, même si c'est mystérieux, même si c'est incompréhensible, encore une fois, les sages d'Israël savaient comment se font les mécanismes de l'histoire. C'est assez, vous vous souvenez de votre question hier soir, hein? Vous voyez que c'est un hacham. Comment une fois, je veux dire. Je veux une petite parenthèse. La Torah, c'est une tradition qui s'enseigne. Et nous avons des appuis qui sont les livres. Alors il y a deux sortes de hachamim complètement différents. Ceux qui étudient la Torah de maître à élève, et ils ont des livres, et ceux qui ne connaissent que les livres et les dictionnaires, et ils n'ont pas de maître. Alors ces deux, je pousse les choses à la limite. Alors la question se pose dans la deuxième catégorie. Comment celui qui n'a pas appris peut savoir? C'est une fausse question. C'est qu'il n'a pas appris. Celui qui a appris, il n'y a pas de question comment il peut savoir. Il a appris. Est-ce que c'est clair? Je dis souvent, je dis souvent que la définition d'un maître dans la tradition juive, ce n'est pas quelqu'un qui a des élèves. C'est quelqu'un qui a eu un maître. C'est clair? Alors c'est ça, le problème dont nous parlions d'ailleurs tout à l'heure, sans citer personne. Nous sommes dans une génération où la formulation de la Torah est à portée de tous. Mais il y a deux catégories quand même. Ceux pour qui ça commence avec moi, jusqu'avant moi la Torah n'avait aucun sens, c'est moi qui veux vous dire ce que veut dire la Torah. Et d'où tu sais, ben, j'ai des livres et des dictionnaires et ma tête. Et puis, ça y est, c'est clair. Et puis, il y a l'autre catégorie, c'est que depuis Moïse au Sinaï, une tradition s'est transmise et elle ne peut être comprise que parce qu'il y a des maîtres qui font lire ce qu'il y a dans les livres. Mais où ils ont appris? Pas dans les livres, de leur maître. Est-ce que c'est clair? Et je vous donnais un critère très simple, ça s'appelle de la déontologie chez les savants. Quelqu'un qui ne cite jamais ses maîtres fait partie d'une catégorie. Et quelqu'un qui cite ses maîtres fait partie de l'autre catégorie. Et pourquoi les premiers ne citent pas de maître? Parce qu'ils n'ont pas de maître. Je ne sais pas, ils s'approchent de maître. Alors, en tout cas, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent n'est pas intéressant, c'est de la culture juive. Mais la Torah, c'est la Torah. Mais je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et d'autant plus qu'en plus, la plupart du temps, ils ont lu beaucoup de livres. Mais dans ces livres, il est dit que ce qui est dit n'a de sens que parce qu'on l'a reçu d'un maître qu'on cite dans le livre, d'ailleurs. Alors, oui, un peu la contradiction. Bon, alors on va résumer la parenthèse. Il y a d'un côté les maîtres et de l'autre côté les centimètres. C'est-à-dire ceux qui se sont sentis maîtres. Alors on revient au problème. Vrachel ra Daniel, nous sommes à la dernière phrase du paragraphe. Et c'est pourquoi Daniel a vu à Achat, chez Ishel Kesef, une qui était faite dans la vision des statues, une qui était faite d'argent et une qui était faite de fer. Ou Beinyan, Alba, Malchouyot et Lou, et au sujet de ces quatre empires, Hem, Mepak Pekim, Be Malchout Ishmael. Il y a un doute, une perplexité au sujet de l'empire d'Ishmael. Il y a un autre texte du Maharal sur le même sujet, c'est au début de Ner Mitzvah, le livre qu'il a consacré à Hanouka. Il pose la question de la manière suivante. Bon, c'est très clair, on parle de Malchut Babel, Malchut Paras, Malchut Yaval, Malchut Edom, et Malchut Ishmael, où c'est? Alors là-bas, le Maharal explique que Ishmael est un fils d'Abraham, qui ne fait pas partie des quatre empires, qui a reçu sa bénédiction, pour lui-même. Les quatre empires, ce sont ceux qui disputent l'identité d'Israël à Israël. Et ça se dévoile dans le quatrième. C'est clair, jusque-là. Et que par conséquent, il n'y a pas à situer Ishmael parmi ces quatre empires. Mais il ajoute dans Ner Mitzvah, cependant, il y a à dire qu'il s'agit de Paras. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Maharal enseigne ça des siècles avant qu'il se dévoile avec le chouménisme, qu'effectivement Ishmael c'est Paras. Et qu'il y a conflit entre Ishmael et la civilisation occidentale. Et à la tête de ce conflit, eh bien, vous avez d'un côté Edom et de l'autre côté Ishmael, qui est Paras. Quel que soit, si vous voulez, les satellites qu'il y a dans l'un et l'autre camp, il est bien évident que l'affrontement est entre Edom et Paras à titre d'Ishmael. C'est extraordinairement impressionnant. Encore une fois, historiosophie, comme disait mon maître, c'est un mot barbare qui a été forgé par les penseurs du siècle dernier en Allemagne, la sagesse de l'histoire, c'est un barbarisme. Historiosophie du Mahar. Alors on continue. Qui est Shomrim? Car certains disent que Malchut Revi'it hi Malchut Ishmael. Certains disent que c'est le quatrième empire qui est l'empire d'Ishmael. Car leur difficulté dans la lecture du texte de Daniel est que cette quatrième bête qui représente, animal qui représente le quatrième empire, est très grande. Et donc, il est convenable de donner à Ishmael, qui est un empire colossal, au point de vue de l'étendue, l'attribution de cette quatrième bête de la vision de Daniel. Sinon, que serait cet empire? Aval, il devrait hachamim. Des paroles des sages, absolument, qui eux connaissent les choses cachées de la Torah. Oui, c'est Maral qui parle. Et vaisseau d'Amalchudot Kulam est le secret de tous ces empires. Et eux, ils ont expliqué que Ishmael n'est pas le quatrième empire. Mais d'Avarzi Yadro, Beberou, et ça, ils le savaient clairement. Beberou à Gamou, le plus clairement possible. Mais Mahamat Kama Dibre Chokma, par le fait de plusieurs principes de la sagesse. Omnam, Imacha Marlou, qui Mahout Ishmael, Mahout Gedola, le fait que l'on ait dit que Malchut Israël est un grand empire, ce n'est pas une difficulté. Car le verset dans Daniel a dit seulement que c'est quatre empires, qu'il y a quatre empires. Ce n'est que quatre empires qui reçoivent la souveraineté des principes de sainteté d'en haut. Urdirtiv, comme il est écrit, Alba Malchaan, Yakumun, Vikabloun, מלכות דקדישין עליונים ויחסנון מלכות עד עלמה ועד עלם עלמיה. Alors là je traduis directement que cela durera le temps d'un monde et un monde et la moitié d'un monde. Alors c'est tout le sujet des chiffres dans Daniel. Je n'ai pas voulu vous apporter toutes ces réponses là. Il y a dans les versets de Daniel assez clair, d'ailleurs je dois vous dire, le temps de développement de la fin du temps des empires, donc de la fin du temps des exils, et les kabbalistes contemporains ont montré d'ailleurs de façon très claire la date de l'apparition de l'État d'Israël dans ces textes de la Bible. Bon. Harelecha. Voici donc, Shakatoumei, que le texte témoigne, qui est loué à Alba Malchuyot, que ces quatre empires, Ikabloun, Malchut, Kadishin et Yadim, recevront des forces, des puissances d'en haut. Ou biurze, c'est l'explication de cela, car cher Kadeshim et Yonim, lorsque les puissances supérieures, Hayalahe Mamalchut, avaient la souveraineté, Otan Malchut Atzmo, cette souveraineté elle-même, Massa Hashemim Barak, l'Alba Malchut, c'est Dieu qui l'a transmise à ces quatre empires. Kimekoach Oto Malchut, Amdu Elu, Alba Malchut. Car c'est. Et j'en parlais tout à l'heure, l'expression de souveraineté de droit divin, mais simplement pour l'exclure, c'est par le fait que Dieu leur a donné la possibilité de cette souveraineté qu'ils ont eu cette souveraineté. Kinatal Malchut Kadishin Elyonim, car il a pris cette souveraineté des puissances d'en haut, mais il y arrive là-bas Malchut, il l'a transmise aux quatre empires, qui Amdou Mikor Malchut Kadishin Elyonim, qui ont pu subsister de la force de cette souveraineté reçue. Je veux dire, tant que le génie de telle civilisation considérée a donné au peuple qui l'incarne la force, alors cette civilisation existe. Mais cette civilisation n'existe que tant que le principe qui l'anime lui délègue sa souveraineté. Tant que c'était lorsque c'était le temps du génie humain selon la Perse, alors la Perse a été l'empire qu'elle a été, etc. שערי מלכות בבל בוודאי עמדה מכוח מלכות קדישים עליונים. Car l'empire de Babel, bien évidemment, ne s'est maintenu que par le principe de puissance d'en haut qui lui ont été délégués. שערי מלכות בבל נטלה מלכות ישראל. Or, c'est מלכות בבל a pris la royauté, la souveraineté d'Israël. Alors c'est ce que nous avons appris dans les séminaires précédents à propos du temps des Hébreux avant Abraham. Est-ce que c'est clair? La rivalité entre Babel et Israël, c'est au temps d'avant Abraham. Et ensuite, c'est la Perse qui a pris cette souveraineté, Minmanchut Babel, qui l'a prise à Babel. La Perse a succédé à Babel. Et a hérité de cette souveraineté supérieure. Et après, c'est l'empire de Yavan, la Grèce. נחל המלכות ממלכות פרס, כי הפריס את סוברנטה דולה פרס. ומלכות אדום, נחל המלכות ממלכות יוון. עירום, הפריס את סוברנטה דולה גרס, כאשר ידוע כמי דקולים. אבל מלכות ישמעאל, ולסוברנטה דישמעאל, אף על גב שישמעאל היא תקיפה לחדה, בין כה ישמעאל עשה פרופ פורס פור אלמם, לפרסום את זנרמיה, לא עמדה מכוח מלכות קדישים עליונים. Ne s'est pas maintenu par délégation de ses forces supérieures. Ses forces supérieures, destinées à Israël pour l'avenir du temps messianique, sont, pendant l'époque des quatre grandes civilisations, prises par ces quatre civilisations. Mais ce ne sont pas ces forces supérieures-là qui donnent souveraineté à l'empire d'Ishmaël, Rat et Loulavan-Rur. Uniquement ces quatre empires-là, Andoum et Malchut Kadish et Yonim. ולכך, אלו ארבע מלכויות, זה כת חמפיר, מפני שעמדו וקיבלו מלכות קדישין העליונים, הם מעכבים הגאולה. זה סור, זה כת חמפיר, פר לפת כאילו פרטנסיון, דה פורס רשו, פר דלגסיון, דה פיסון סופריות, דה סנטטי סופריות, כי אמפש לדליברנס, ואורכן נתן להם, ילראה את דולי תולטן, כסלה הפרי. בכל זמן שהם מולכים, Et tant qu'eux gouvernent, tant qu'eux sont souverains, Lo Yahzeru Israël, Israël ne reviendra pas, cet Israël, Asher Natal, Asher Midvarach, à Malchut même, dont Dieu a pris la royauté. Il y a une indication très importante dans les textes du Midrash et du Zohar concernant la reine Esther, qui éclaire cela, la royauté quitte Israël et rentre chez les Goïms par la reine Esther. La reine Esther est de dynastie royale, de la dynastie de la royauté du Machère de Mosé, puisqu'elle est de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire des enfants de Rachel. La royauté de Rachel quitte Israël par la reine Esther et rentre chez les Goïms. Et puis donc, à la fin des temps, elle reviendra. Nous avons une fois parlé de cela, je vais en dire quelques mots peut-être, puisque j'ouvre cette parenthèse. D'une part, il est très frappant de voir que nous vivons dans le temps contemporain la fin des dynasties royales dans le monde entier. C'est frappant. Okay. Et puis, ces dynasties royales, d'après notre texte, ont reçu leur souveraineté en usurpation de la souveraineté royale d'Israël. C'est-à-dire, il y a dans la royauté de quelque royaume que ce soit, quelque chose de l'ordre de la sainteté de la royauté d'Israël. Pourquoi la Halakha établit que lorsque on est en présence d'un roi, il y a une bénédiction particulière à dire. Et si on est invité à la table du roi, on a le droit de manger tout ce qu'il offre. En général, ces rois sont polis, ils donnent à manger cachère. Je me souviens d'une anecdote historique. Vous savez qu'il y a dans le nord de l'Angleterre une yeshiva en Écosse, Gateshead, et que la reine Elisabeth, je crois, avait visité sa bonne terre d'Écosse. Et puis alors, quand les gens de la yeshiva de Gateshead ont appris que la reine allait venir, ils se sont tous placés sur le cortège pour avoir le scoop de pouvoir dire la bracha quand la reine passait. Alors ces braves Écossais étaient stupides de voir nos barbus dire une bracha comme ça. Et effectivement, donc, la fin de la révélation biblique au sujet des engendrements de la royauté d'Israël, c'est ce récit où la reine Esther devient l'épouse du roi Assuérus et la royauté passe en Perse. Vous voyez comment se fait la famille. Bon, la dynastie de Perse s'est arrêtée, la dynastie d'Abyssinie s'est arrêtée, la dynastie d'Italie s'est arrêtée, la dynastie de Grèce s'est arrêtée. Et puis il reste la dynastie d'Angleterre. Et puis il reste aussi les Sfaradim ne font jamais les choses comme tout le monde. Alors quand tout ailleurs le roi est parti, en Sfarad il est revenu. Bon, mais ça, si vous voulez, dans le gros plan du problème, il est bien évident qu'on s'aperçoit que la royauté cesse chez les nations du monde quand c'est le temps pour Israël de se reconstituer. C'est ce qui est indiqué ici.
C'est seulement la royauté de Yosef.
qui est passé, c'est aussi celle de David, mais enfin, je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Mais, enfin, nous sommes donc dans un temps de relais, où la royauté est rendue à Israël. Bi Zeiranpin, comme on dit, c'est-à-dire en petit modèle. Nous avons un président de la République, un président de l'État. Bon. Mais du point de vue de la halakha, c'est au niveau du temps de Machar Ben Yosef, le principe de souveraineté que la halakha établit par rapport au roi d'Israël. Le Machar Ben David, c'est la relation au roi selon les rois de Juda. Ça, on étudie dans la halakha. Bien, alors je reprends la phrase. Et pendant tout ce temps où la souveraineté royale est chez les nations, alors Israël ne revient pas. Israël, dont Dieu a pris le malchut, et Benatnou, l'Elo, alors malchut, et l'a donné à ces quatre empires. Ben Chosrin, Lamakom, Ma'alatam, le malchuta. Ils ne peuvent pas, pendant tout ce temps-là, revenir au niveau de leur. Qui leur est propre, et au niveau de leur souveraineté. Alors encore une fois, il suffit de relier ces deux remarques. La royauté à proprement parler, dont la souveraineté royale disparaît des nations pendant le temps qu'Israël se prépare à devenir la royauté messianique. Et je le dirai dans tout notre registre, pendant tout le temps où c'est le principe des nationalités qui a gouverné la civilisation, je parle de la civilisation occidentale, eh bien Israël était la seule nation sans souveraineté nationale. Et c'est au temps où il y a une supranationalité qui apparaît chez les nations, qu'Israël retrouve sa propre souveraineté nationale. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Jusqu'à 1917, ben, le principe des nationalités est partout. Et puis, il y a une seule nation qui n'a pas sa nationalité, c'est Israël dispersé. En 1917, déclaration de Balfour, on va rendre sa nation à Israël. Et c'est en ce temps-là que va commencer la réflexion en Occident sur la recherche d'une supranationalité pour résoudre le problème du monde. Est-ce que c'est clair la relation? Et c'est bien en 1917 que ça a commencé. L'ONU ne dérive que de la Société des Nations. Enfin, si vous voulez, la Société des Nations est l'avant-première de l'ONU, et la Société des Nations se constitue à la suite de la guerre mondiale, et c'est en 1923, à San Remo, que la déclaration Balfour est entérinée par la Société des Nations. Ensuite, la Société des Nations se dissout, elle avait plus rien à faire.
Excusez-moi, Charles, un petit message.
Comité confidentiel. Et alors, il y a deux choses à faire, en tout cas, essentiellement. D'une part, terminer le texte du Maharal, le chapitre 21 de Netzach Israël. Et puis, revenir sur la question qui m'a été posée, sur un petit paragraphe que je n'ai pas traduit hier. Est-ce que la personne qui m'a posé cette question était par là? Elle n'est pas là. On l'attendra, c'est bien. De toute façon, je le dirai à vous aussi. Et je n'ai pas traduit parce que je ne savais pas si j'aurais l'occasion d'en parler hier soir. J'en ai eu l'occasion, donc je reviendrai. Je reviendrai. Bien. Alors, vous me rappelez. Je vous rappelle que nous sommes arrivés à la citation du Maharal d'une controverse. Tout le monde était hier soir à la... Ah non? Parce que je voulais en tenir compte, parce que ça m'économiserait du temps. Mais enfin, on va essayer. Vous me direz si c'est pas assez clair. Le Maharal avait cité le fait que les Hachamim se sont posé la question de savoir comment situer Ishmael, ce que nous avons appelé Ishmael. Et maintenant, il est évident que Ishmael représente quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que les sources appelaient les Albar Malchuyot, c'est-à-dire les quatre empires. Il y a, je ne voudrais pas trop schématiser, mais il y a malgré tout, dans la perspective de l'universalisme de l'islam, un impérialisme conquérant, qui est en tout cas formellement extrêmement analogue à ce qu'ont pu être les empires politiques. Bien entendu, comme vous le savez, dans l'islam, il y a une identification entre non pas entre les pouvoirs politiques et religieux, mais entre le projet politique et le projet religieux. Et j'ai souvent l'occasion de dire, je pense que je ne suis pas le seul auquel vous l'avez entendu, que ce sera décidément assez difficile, il faudra beaucoup de temps pour une mentalité de type culturel occidental, de percevoir la cohérence et, les, et le profil des données de la conscience musulmane, qui est en particulier sur ce point extrêmement différente de ce que peuvent penser les occidentaux concernant ces mêmes problèmes. Je vous rappelle brièvement une des positions de base dans l'islam, c'est que dès que l'islam est apparu, il est apparu comme une restauration de la religion originelle qui était celle du premier homme, celle d'Abraham, celle de tous ceux qui ont fondé des religions par la suite jusqu'à Mahomet. Mahomet étant le dernier, considéré comme le dernier fondateur de religion, et avec une mission, une vocation d'universalisme que je voudrais définir, de conquête du monde au service, à travers l'islam, de conquête du monde à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Et par conséquent, l'islam ne supporte pas qu'il y ait une organisation politique concurrente de la sienne, qui est d'emblée à la fois politique et religieuse. De notre temps, il y a des bouleversements considérables dans les sociétés islamiques, comme vous le savez, et qui résultent de la décolonisation, mais malgré tout, et pas seulement ce qu'on appellerait le khomeinisme ou le kadhafisme même, mais malgré tout, il semble bien que la dominante reste cet islam traditionnel. J'emploierai pas, même si je les emploie, ils seront vraiment contingents, des termes comme intégrisme, fanatisme, etc. Ce sont des, à mon sens, par rapport à notre sujet en tout cas, ce sont des problèmes extrêmement ponctuels. C'est la psychologie humaine en général, appliquée aussi à l'islam. On trouve des intégristes, des fanatiques dans toutes les sociétés religieuses. C'est pas proprement islamique, mais ce qui est proprement islamique, c'est la volonté d'un universalisme de conquête en vue de mener le monde entier à devenir Dar al-Islam. Alors, la maison de l'islam. Le terme de islam, comme vous le savez, signifie soumission à Dieu. Merci beaucoup. Alors, il y a dans l'histoire, jusqu'à l'aboutissement de la réussite de cet universalisme islamique, des péripéties, et il y a des péripéties d'aménagement, de coexistence avec les autres sociétés, jusqu'à ce que... Mais le grand souvent, c'est que le monde se divise en deux catégories. Dar al-Salam, ne confondez pas avec l'islam, Dar al-Salam, c'est-à-dire la maison de la paix, la maison où l'islam est souverain, alors il y a la paix, et on est soumis à cette paix, et Dar al-Harb, c'est-à-dire la maison de la guerre, qui est en dehors de la maison de l'islam. Je ne crois pas du tout que l'islam ait changé de nature depuis l'origine, et jusqu'à la fin. Les péripéties par lesquelles cet universalisme islamique se propage, et les petits problèmes que vous avez avec les voiles, c'est vraiment un petit problème anecdotique. Okay. Vous le sentez, je suppose. C'est simplement symptomatique, il se passe quelque chose. Ça fait déjà assez longtemps que ça se passe. Elle montre que rien n'a changé à ce sujet. Donc, il y a dans l'apparence de cet universalisme de l'islam quelque chose qui ressemble aux empires. Je vous rappelle les empires, c'est la grande civilisation de Babel, ensuite c'est la civilisation de Perse, la civilisation grecque, la civilisation romaine, qui devient la civilisation occidentale à travers 2000 ans de développement et jusqu'à là. Alors on se pose la question, mais où est Ishmaël dans cette perspective déjà annoncée par la révélation à Abraham, chapitre 16 de la Genèse, mise en forme par toutes les sources du Midrash, que l'histoire d'Israël aura à traverser ces quatre empires, mais voilà que dans l'histoire du monde, il y a Ishmaël, où situer Ishmaël. Et nous étions arrivés à cette citation du Maharal qui dit que on trouve une opinion que Ishmaël serait le quatrième empire, alors que du point de vue de toutes les sources que nous avons, je ne connais pas la source du Maharal sur ce point. Toutes les sources que je pense pas que je connaisse, le quatrième empire c'est Edom, et c'est indéniable, et c'est irréversible, et je ne crois pas qu'il y ait de discussion à avoir à ce sujet, mais le Maharal a tenu à citer cela. Il y a eu une opinion que Ishmaël serait le quatrième empire. Il y a eu, je pense, pendant plusieurs siècles, simultanément quand l'impérialisme de l'islam était turc ou arabe, parce qu'il y a deux branches de l'islam, l'empire turc et l'empire arabe, en tout cas en ce qui concerne les relations avec Israël. Puis, comme vous le savez, la Palestine, entre guillemets, qui était une province sud de la Syrie dans l'empire arabe, est pendant très longtemps devenue une province turque. Et c'est des mains des Turcs que les Anglais ont reprises, et ce sont des mains des Anglais et que les Juifs ont reçues. Donc, il n'y a jamais eu, depuis 400 ans, une souveraineté arabe quelconque qui s'est interposée entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Ça a été, donc, dans les derniers siècles, les Turcs et les Anglais. Je pense que c'est bien clair, ce qui c'est ensuite la politique anglaise qui a inventé l'état du problème. Eh bien, il est possible qu'effectivement cette opinion se rattache au fait que, pendant quelques siècles, on a pu penser que Ishmaël, soit dans sa modalité turque, soit dans sa modalité arabe, s'approprie l'Occident déjà. Ça s'est arrêté à Poitiers et à Constantinople, mais ça aurait pu être cela. Que la civilisation que nous appelons aujourd'hui la civilisation occidentale, au lieu d'être de dominante Edom, aurait été de dominante Ishmaël, et avec des ghettos de Edom comme il y a des ghettos d'Israël. C'est clair comme indication. Ça, c'est pour la première opinion. Et puis finalement, le Bar al-Sit, et là encore, je dois vous dire que pour ma part, je n'ai pas encore trouvé de source antérieure, cite sa certitude que Ishmaël, c'est la Perse, en tant que c'est le même un impérialiste. C'est là que nous étions. Et simplement, je rappelle que ce texte est du XVIe siècle, que ce n'est que très récemment qu'il se dévoile qu'Ishmaël, en tant qu'empire, en tant qu'impérialisme, c'est la Perse, l'Iran aujourd'hui. Alors, nous avons toute une explication du Maharal qui nous montre ce problème. Alors, je vous propose de reprendre le texte à la page Koufret 108, en bas, au paragraphe qui commence à Ubeinyan Arba Malchuyot. Il me reste encore un texte que je vais vous lire. Il y en a un ou deux. Au sujet du thème des quatre empires, et ces quatre empires, il y a perplexité concernant ce que serait l'empire d'Ishmaël. Qui yesh shehayu omrim ki malchut revi'i hi malchut Ishmaël. Certains disent que c'est le quatrième empire qui serait l'empire d'Ishmaël. Ki ushalahem ki hi haya gedola me'od. Car la difficulté qu'il voulait résoudre, c'est que dans la vision de Daniel, ces empires sont représentés par des animaux qui sortent de l'eau. Vous vous rappelez de cela, de cette vision? Que cette quatrième Haya, bête sauvage, est très grande. Mais Raoul n'a qu'à être Malchouzé, Koach et Haya Rebit. Et que par conséquent, lorsque dans l'histoire, ceci se réalise en empire, alors il est normal que cet empire ait la force de cet animal sauvage très fort et très grand de la vision de, qui préfigure ce qui se passe. Mais il est ok, mais il m'en faisait. Et sinon, quel serait cet empire? Avant nous dire, Hamim, mais de ce que nous savons des paroles des sages, Asher Hem Yodim Matsmune HaTorah, qui connaissent, eux, les choses cachées de la Torah, Besod HaMalchuyot Kulam, et le secret, c'est-à-dire la signification, de tous les empires qui se sont développés dans l'histoire, Vehem et Eru, eux, ont expliqué qui est un malchut rebiit, que Ishmaël n'est pas ce quatrième empire. Vedarazé, Yadrou, Veberou, Vagamour. Et cette chose-là, ils le savaient de façon très claire, complètement claire. Mechamat Kamalibre Chokhma, de par un certain nombre de principes de la sagesse. Il veut dire que ceux qui comprennent le mécanisme de l'histoire du monde créé savent que il y a incompatibilité entre ce stade du quatrième empire dans le développement des civilisations et ce que représente Ishmaël en tant que branche dérivée d'Abraham alors qu'il était encore Abraham. C'est-à-dire qu'Ishmaël s'enracine dans Abraham, alors que les empires, ce sont des rivalités des nations extérieures contre la famille d'Abraham. C'est clair ? Là, vous référez alors à l'autre source du Maharal dans le Nermidva, page 18, si vous vous souvenez, et là, où il explique que Ishmaël a ses propres bénédictions, qui ne sont pas les bénédictions d'Israël que disputent les empires. Les empires disputent la souveraineté, la royauté d'Israël. Mais Ishmaël a ses propres bénédictions. Donc c'est un cas particulier. Omnam, mais machin, un gros, qui m'a dit Ishmaël, m'a de là. Ce qu'ils ont dit là, que l'empire d'Ishmaël est un grand empire, elle est cachée à clan. Ce n'est pas une objection, c'est une difficulté. Qui a qu'à toujours Amara, qui a le bas, Machiud, mais qu'abri, Machiud, qu'a dit Shinaïonim. Car ce qu'a dit le verset dans le texte de Daniel, c'est qu'il n'y a que quatre empires qui reçoivent délégation de souveraineté des forces supérieures qui sont déléguées dans l'histoire à travers ces empires. Au dernier, comme il est écrit, Abba, Malchan, Ikumun, Ikablu, Malchut, Dekadishin, Elionim, Yarsedun, Malchut, Ad Alma, Vead Alam, Almaya. C'est en araméen, je vais vous introduire. Okay. Qui se passera, qui est un temps, plus un demi-temps et un temps, dans l'histoire du monde, ça ne rentre pas dans ces chiffres-là, maintenant, en tout cas, et il y aura quatre royaumes qui auront reçu la délégation de la souveraineté de la Providence. Harelecha. Voici donc, cher Katou Meïm, que le texte lui-même témoigne qu'il y a Arba Malchuyot, que ces quatre empires, et Kabloum Malchut Kadishin et Yonim, reçoivent leur souveraineté par délégation des forces d'en haut. Biruzé, l'explication de cela. Kaacher, Kadishin, Elionim, quand ces forces supérieures, Hayalahem Malchut, avaient la souveraineté, Otan Malchut, cette souveraineté, elle-même, Masar Hashem Ibarach, et Alba Malchut, a été transmise par Dieu à ces quatre empires. C'est-à-dire, lorsque dans le monde d'en haut, c'est le tour de souveraineté de tel ou tel de ces forces supérieures, alors c'est délégué dans le monde d'en bas, dans l'empire qui le représente. C'est clair ? Qui mikoach oto malchut amdu elu arba malchuyot, car c'est de par la force de ces souverainetés d'en haut que les empires d'en bas avaient la souveraineté. Et quand on relie ça très simplement au fait que on voit qu'en un temps, eh bien, la royauté de l'empire terrestre, de la civilisation terrestre, c'est Babylone. Subitement, c'est fini. C'est remplacé par une autre manière d'être homme, la Perse. Et après, c'est remplacé par une autre manière d'être homme, etc. C'est donc que, alors, on revient un peu à ce qu'il disait à propos des sages, ceux qui connaissent les mécanismes le mot qui me revient, c'est un mot qu'ancien, trop précis. Ceux qui me reviennent, ceux qui connaissent les mécanismes du projet du monde créé, alors comprennent aussi comment cela se réalise dans la réalité historique. C'est clair ce que j'ai dit là ? Qui ? Car Dieu, Natal, a pris Malchut Kadishin Elyonim, la souveraineté de ses forces de sainteté supérieure, et l'a délégué aux quatre empires qui Amdou, Mikoach, Malchut, Kadishin et Yonim, car ces quatre empires se subsistaient de par la force de ces forces supérieures. Chehari Malchut Babel, puisque, par exemple, Malchut Babel, l'empire de Babel, Bevadai, Amda, Mikoach, Malchut, Kadishin et Yonim, c'est évidemment maintenu et a subsisté de par la force de forces supérieures. Chehari Malchut Babel, Natla Malchut Israël. En Malchut Babel, a pris la royauté d'Israël. Et ça, c'est le conflit Nimrod, les Hébreux du temps de la famille d'Abraham. C'est clair. Donc, Behakar, Natla Malchut Paras, Amalchut Malchut Babel. Et ensuite, c'est l'empire de Perse qui a pris la souveraineté de l'empire babylonien. Et ça, historiquement, c'est très clair. Les Perses et les Mèdes, ça va ensemble, la Perse et la Médie, c'était un empire un peu bicéphale, un peu comme l'Austro-Hongrie. l'Autriche Hongrie. La Perse et la Médie. Bien que la Perse et la Médie, d'après certaines sources, ne sont pas de même ethnie. Et quoi qu'il en soit, il s'agit d'une descendance de Japhet. Et alors, on voit bien qu'à un certain stade, c'est la Perse qui remplace la Babylonie. Et finalement, lorsqu'on y est assez habitué, seuls les archéologues, les historiens y voient clair, ce sont deux profils de civilisation radicalement différents. Pour les modernes, c'est le même exotisme, mais pas du tout, c'est vraiment si différent, je ne sais pas, qu'un Finlandais et un Portugais, mais encore beaucoup plus. Bien. Je continue. Et ensuite, c'est la Grèce qui a pris la souveraineté de l'Empire perse et l'Empire latin, Edom, romain, Nathla Malchut, a pris la souveraineté de l'Empire grec, Kacheréadoua, comme cela est connu. Alors Malchut Ishmael, mais l'Empire d'Ishmael, Afalgafi Ishmael, Hittekifal, Hada, bien que Ishmael peut être dit un animal sauvage fort, takif, c'est agressif. Takif, vous connaissez ce terme en hébreu moderne d'ailleurs. Yahada, lo amda, mikwar malchut kadishmaeli. Cet empire d'Ishmaël ne vient pas d'une délégation de la souveraineté d'en haut. Est-ce que c'est clair, quel le raisonnement du marat? Rat, elu alba machiot, c'est seulement ces quatre empires, Ando, mi malchut kadishmaeli, qui avaient leur souveraineté par délégation de force. Transcendante. Et c'est pourquoi ce sont ces quatre empires qui empêchent la Géoula, la délivrance, c'est-à-dire la fin de l'exil. Et il leur a été donné un sursis de temps. Molchim. Et tout le temps qu'il règne, hein, j'ai dit Molchim, qui se dirige, Molchim, l'Oyarzéro Israël. Israël ne va pas revenir. Asher Natala Kadoshmohu, Asher Invara, Hamalchut Mehem. Et c'est là qu'on s'est situé au temps où la royauté a quitté Israël pour entrer chez les nations. Maintenant, nous, et cette royauté a été donnée à ces quatre empires. El Khosrin Narako, Mahalatam ou Malkudam. Ils ne peuvent pas encore revenir au niveau de leur élévation, de leur grandeur, de leur stature et de leur souveraineté. Mais Malchut Ishmael, Malchut Tekifa, et bien que l'empire d'Ishmael est un empire fort, Mikomakom, El Obicha, Mamalchut, de toute façon, il ne fait pas partie de ces quatre empires. Asher Kibou Malchut Kadishinelim, qui avait reçu leur souveraineté des pauvres. Ven, Reaya, Minamem Shalah, Rechiston. Et on ne peut pas tirer de preuve du pouvoir politique et de la domination. Ça veut dire le fait que la descendance d'Ishmaël a des rois, des princes, des chefs politiques, possède le pouvoir politique et la domination n'est pas une preuve que cela fait un de ces quatre empires. Si le Maharal insiste tellement sur ce problème, c'est que vraiment cela a préoccupé la tradition de savoir où classer Ishmaël. Alors vous voyez donc que pour notre sujet, Edom et Ishmaël, bien qu'apparemment nous sommes en conflit analogue, eh bien ce sont deux relations radicalement différentes. C'est bien clair. Hein, je continue. Ah bah, l'État rapidouche, mais l'essentiel de l'explication de notre sujet, qui Malchut Ishmael, c'est que l'empire d'Ishmael, ou Malchut Paras, et l'empire de Perse, à Kol Malchut Echad, c'est la même chose. Voilà donc cette surprise que nous avons avec le Mara. Qui est loin de Malchut, car ces quatre empires, et Mechulakim et Anagatam, sont différents, se distinguent dans leur conduite, et dans leur manière d'être conduite d'ailleurs. Ve'en Zekemos, et une n'est pas comme l'autre. Ainsi, là nous avons une citation du traité de Avodah Zarah, à page 2, parce que c'est celui que j'ai inventé, page 2b, Nichnas, au moment du jugement dernier, Nichnas, Malchut Revi, Vemri, Laël, on a demandé aux civilisations de se justifier dans l'histoire du monde. Quel serait leur mérite pour pouvoir mériter d'avoir été créé? Alors, le texte dit, et le Maharal va s'appuyer sur la forme de ce texte, « Nirnas Malchut Revi'it, le quatrième empire entre, Veomrim et ils disent, on leur demande, mais Ma'asaktem, de quoi vous êtes occupé, Ba'olam, dans le monde ?» Overet, alors ils vont répondre, « Arbe Shvakim, Pikamim, Arbe Mihatsarot, Asim. » Nous avons fait beaucoup de marchés, les multinationales. Harvey et Mehatsao, nous avons fait des douches, des bains. C'était connu, les bains romains. Comment ça s'appelait, les thermes.
Les thermes, oui.
C'est pas grec, les thermes.
Non.
C'est les romains.
Ah, mais c'était d'abord grec, le mot est grec.
Ah, le mot est grec. Aujourd'hui, c'est des saunas, je suppose. Harbe Kesevezaha Virli. Nous avons amassé énormément d'or et d'argent.